Alors, si vous me le permettez, j'aimerais au début de cette rencontre faire une courte prière et je m'inspire pour ça du texte d'Écomplis du mardi. Père éternel, toi qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit. Qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa part. Et toi, Christ vainqueur, renouvelle ton Église dans la grâce de l'Esprit Saint, qu'il la purifie, la fortifie et lui donne de grandir en toi. Amen. Mes chers amis, IS et IES, bienvenue à bord de notre train. En partance pour cette deuxième interpellation fraternelle en Église. Comme vous le savez, elle est consacrée à l'urgent et indispensable renouveau en profondeur de notre Église institution. Quand le comité responsable des invitations à l'occasion des divers enregistrements d'interpellations fraternelles m'a remis la liste de vos noms, je me suis senti particulièrement choyé et je n'ai pas caché ma joie. Il est difficile, en effet, de trouver un auditoire plus représentatif que le vôtre des divers secteurs et niveau de l'Église institution. Vicaires généraux et épiscopaux, milieu des chancelleries, responsables de pastorale, d'administration financière, curés de paroisse, hommes et femmes de recherche et d'enseignement, animateurs et animatrices d'œuvres, responsables d'office, et membres d'importants secrétariats, de commissions ou d'agences d'Église. Je me sens donc en terrain propice pour aborder bien simplement avec vous ce thème délicat mais important entre tous. On m'a précisé, et je m'en réjouis, que en plus des deux critères concernant votre compétence et votre diversité des plus représentatives, vous avez été choisi pour votre désir bien connu et reconnu de voir l'Église institution se repenser, se renouveler spirituellement en profondeur. Deo gratias. J'ai donc non seulement l'impression, mais déjà la certitude que notre week-end ensemble sera des plus heureux et des plus fructueux. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me compromettre le premier. Demain, ce sera à votre tour. En deux tours et en deux jours, on devrait normalement avoir abondamment le temps, d'une part, de faire le jour sur ce sujet brûlant et délicat, et d'autre part, de s'être démontré mutuellement notre grand amour et notre loyauté envers l'Église. Et surtout, notre grand désir de la servir au mieux. Alors, puisque nous sommes à bord de ce train, Il ne me reste qu'à dire, en voiture tout le monde, all aboard, comme on dit en latin, et souhaitons-nous un bon voyage. Je constate déjà, par votre silence très discipliné, que vous êtes au courant de la petite règle du jeu qui demande habituellement à nos invités d'écouter patiemment et activement, sans toutefois réagir, afin que l'enregistrement ne capte aucune prise de position autre que celle de votre humble serviteur. Et on vous a sans doute dit pourquoi. C'est parce que dans ces interpellations fraternelles, nous tenons à éviter tout préconditionnement des auditeurs et auditrices éventuels. Mais vous le savez déjà, vous aurez par ailleurs toute la liberté de réagir, commenter, suggérer, débattre, d'abord lors de nos pauses café, et ensuite lors de la journée entière de demain. Avant de vous exposer le plan général de cette interpellation fraternelle pour le renouveau de l'Église institution, permettez-moi quatre remarques préliminaires. Peut-être seront-elles superflues, non seulement peut-être, mais sûrement seront-elles superflues pour vous, vous les professionnels de l'Église institution. Mais je crois qu'elles sont indispensables pour les auditeurs et auditrices éventuels de ces cassettes, afin qu'il n'y ait pas le moindre malentendu sur l'esprit et les objectifs de cette interpellation. Première remarque. Quand on parle de l'Église, il est courant de distinguer deux aspects de l'Église. L'Église communion, qui est la communauté des fidèles, la communauté du peuple de Dieu. Et l'Église institution, c'est-à-dire l'Église structurée ou l'Église hiérarchisée. Les deux aspects, on le sait, sont d'origine divine et elles sont complémentaires et indispensables. Il ne faut donc pas les opposer l'une à l'autre, en choisir une et en délaisser l'autre. En effet, c'est l'Esprit qui nous rassemble et tisse entre nous des liens d'unité, de communion, qui crée la fraternité chrétienne. Et c'est le même Esprit qui également suscite les différents ministères, dons, modes d'action, dont nous parle saint Paul, mais qui précise que c'est quand même, malgré cette diversité, toujours le même esprit. Et ces ministères, ces dons et ces modes d'action, nous le savons, doivent s'exercer dans la charité et au service de la communion. Par ailleurs, et c'est le deuxième aspect de l'Église, l'aspect Église-institution, c'est le même esprit qui suscite et anime les ministères dits hiérarchiques. L'Église communion a besoin de leadership et le Seigneur y a pourvu. La hiérarchie voulue par le Seigneur est un service et un rappel que les croyants sont rassemblés en Église de par la volonté du Père et par le Christ. Alors, ceci étant dit, il faut bien reconnaître que, de façon générale, tant en principe qu'en pratique, L'Église communion ne pose pas trop de problèmes. Tout au plus peut-on dire que cet aspect est parfois escamoté ou anémique, mais en général, personne conteste ou repousse l'idée de cette fraternité entre tous les fidèles et tous les membres du peuple de Dieu. Mais là où ça se gâte, et ça se discute, là où parfois ça peut décevoir, blesser ou irriter, c'est sur l'aspect Église-institution. C'est-à-dire, comme on l'a précisé il y a un instant, l'Église structurée ou hiérarchisée. Et pourquoi ? Parce que elle devient facilement l'occasion de friction lorsque l'autorité est exercée, lorsqu'il faut prendre position, lorsqu'il faut coordonner, lorsqu'il faut nommer. C'est là que l'humain est le plus douloureusement ressenti et parfois peut devenir irritant ou blessant. Normalement, en principe, l'Église-institution doit ou devrait toujours favoriser grandement l'Église-communion. Devrait la guider, l'animer, la stimuler, l'enrichir, la faciliter. Et c'est pour ça qu'on parle de la mission des évêques, qui est de sanctifier, d'enseigner, de gouverner. Mais en pratique, c'est à ce niveau de l'Église structurée et hiérarchisée que parfois certains blocages se situent. Et là encore, on devrait distinguer, ça ne se situe pas tellement au niveau de la pratique ou de la distribution des sacrements, parce que la grâce est efficace, ex opere operato, comme on le dit. Mais quand on arrive aux trois autres plans, soit celui de la prédication, soit celui de la pastorale, ou de la direction, de l'autorité, et c'est là que, parfois, plus ou moins, certaines situations peuvent provoquer des mésententes, des conflits, et parfois des meurtrissures. Quand les gens, vous le savez autant que moi, par votre ministère ou par l'exercice de vos fonctions actuelles, quand les gens se disent ou se sentent déçus, contrariés ou meurtris, c'est habituellement à l'Église institution qu'ils s'en prennent. Et plusieurs vont nous dire, « Ben moi, je suis un croyant, j'aime le Seigneur, mais je ne veux rien savoir de l'Église. » Quand il dit, « Je ne veux rien avoir à faire avec l'Église », c'est avec l'Église institution. Alors, on le sait, et c'est pourquoi j'ai cru bon d'y consacrer une interpellation fraternelle, cette Église institution, à tort ou à raison, a été et est facilement jugée. Elle doit donc continuellement se réhabiliter. C'est son devoir. Alors, parler d'Église-institution, là, c'est parler des gens, des personnes et des cadres, des responsables comme vous, des paroisses, des œuvres, des diocèses, les responsables et leurs collaborateurs, ce qu'on pourrait appeler la haute fonction publique de l'Église. Et c'est parler également des personnes chargées du ressourcement, personnes ressources, théologiens, enseignants, animateurs, responsables de recherche et de formation. Deuxième remarque préliminaire. L'Église doit se remettre en question. Vous savez que depuis la contre-réforme, l'Église catholique se disait authentique et sainte comme Église, donc irréprochable. Elle avouait qu'elle pouvait être peut-être pécheresse, mais c'était seulement ses membres, c'était pas l'Église qui pouvait être mise en cause. Mais depuis le Concile Vatican II, fort heureusement, comme les autres églises, l'Église catholique admet que comme Église, elle doit rester en constant état de réforme. Dans le document Lumen Gentium sur la constitution de l'Église, au paragraphe 4, par exemple, on lit ceci, « L'Esprit édifie encore l'Église. Il la rénove perpétuellement. Par ses œuvres, il l'embellit. » À l'article 8, l'Église qui renferme en son sein les pécheurs, qui est sainte et en même temps, doit toujours être purifiée et recherche sans cesse la pénitence et le renouvellement. Dans le document sur l'écuménisme, à l'article 6, c'est encore plus explicite. L'Église, au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette réforme permanente, dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Notons bien ça, là, qu'elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Et c'est Paul VI, quand il a succédé à Jean XXIII, à l'ouverture de la deuxième session, qui disait, « Oui, le Concile tend à un renouveau de l'Église, non pas dans le sens d'une rupture avec... la tradition dans son essentiel, mais pour la débarrasser de tout ce qu'il y a en elle de caduc et de défectueux, pour la rendre authentique et féconde. » Ça rejoint également une déclaration que nos évêques canadiens faisaient dans le document intitulé « Jésus-Christ, centre de la vie chrétienne ». Et au paragraphe 45, on peut lire ceci. « Jésus remet en question l'Église. Comme chef de l'Église dont nous sommes les membres, il a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il est le maître absolu de l'histoire. Son projet est plus profond et plus vaste que nos propres desseins et aspirations. En cela, il nous provoque sans cesse au dépassement de nous-mêmes. Et un peu plus loin, cette conversion nous interdit de nous enfermer dans des perspectives uniquement séculières ou de nous complaire dans des intérêts purement humains. Elle nous interdit de confisquer le Christ et son Église à notre profit. » Eh bien, tout cela rejoint, dans le fond, ce texte de saint Paul aux Éphésiens qui disait « Le Père nous a donné le Christ pour tête à l'Église qui est son corps, l'Église qui est appelée plénitude du Christ. » Et un peu plus loin, au chapitre 5, verset 25, « Le Christ s'est livré pour l'Église. Il la voulait sainte et irréprochable. » Alors, on doit se sentir à l'aise de s'interpeller ou de se laisser interpeller dans l'amour et la vérité pour se demander tout ce qui pourrait continuellement redonner à l'Église institution cette sainteté et ce caractère irréprochable. Troisième remarque préliminaire, mes chers amis, je n'ai pas besoin de faire un dessin en couleur pour expliquer que c'est une question délicate à aborder. Et je vous confesserai que sur les 12 interpellations fraternelles au programme, c'est peut-être celle-ci qui, non pas m'inquiète, mais me paraît la plus délicate. Parce que discuter en public des lacunes de l'Église peut facilement provoquer certaines susceptibilités. Parler de situations à réviser en Église peut amener certaines personnes à se croire visées. Discuter en public de lacunes de l'Église, soyons réalistes, pourrait facilement être exploité par des adversaires. Mais là-dessus, mes chers amis, je tiens à vous rassurer. Vous y sentirez tout le long assez d'amour et de sincérité, de compréhension, d'indulgence et un souci constant de ne chercher que les causes et non pas les coupables, qu'après quelques instants, vous comprendrez que cette mission, je la veux remplie au service de l'Église dans les meilleures conditions. Je vous dis donc que c'est avec l'esprit suivant que j'aborde le sujet. L'Église institution, pour moi, n'est pas une étrangère. C'est une mère. Ma mère, votre mère. L'Église institution, en définitive, d'une manière ou de l'autre, c'est moi. C'est toi, c'est vous, c'est nous. Et c'est pourquoi j'entends la considérer dans cet exposé avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Toutes les nuances possibles. Je n'ai pas une tendance habituelle à généraliser et je ne me risquerai pas de répéter le vandalisme qui a suivi peut-être notre Concile Vatican II. Je ferai cette analyse avec patience. La patience est une vertu non pas passive, mais active. Je sais que tout ne peut pas changer instantanément. Je le ferai, vous le constaterez, j'espère, sans défoulement et sans refoulement. Pour évoquer ce slogan que mon père m'avait enseigné quand j'étais tout jeune. Il m'avait dit, quand tu voudras dire quelque chose de délicat, dis-le toujours avec beaucoup d'amour, un petit peu d'humour, sans détour et au bonjour. Je le ferai enfin, mes chers amis, avec le souci de susciter en nous le goût d'être des ingénieurs chrétiens. C'est-à-dire capable d'admettre la réalité, mais soucieux surtout de rapprocher tranquillement la réalité à l'idéal. Je voudrais cependant, à ce moment-ci, avant d'aller plus loin, faire une précision importante, un peu comme on fait avant certains programmes à la télévision ou avant certains films projeté au cinéma, dire que ces cassettes se veulent pour des adultes spirituels seulement. Je ne voudrais absolument pas que quelqu'un, en écoutant ces cassettes, pour diverses raisons, soit heurté, blessé ou encore moins scandalisé. Car il y a deux choses dans ces cassettes, je vous le dis immédiatement, qui pourront peut-être de prime abord en surprendre quelques-uns. D'abord, à la première partie, quand je ferai mes propres aveux personnels sur ce que j'ai constaté et déploré au sein de notre Église. Et ensuite, quand je parlerai de certaines réflexions sur les ruses du malin pour nous tenir en respect, souvent à notre insu et à travers nos meilleures intentions, pour entretenir l'anémie dans beaucoup de nos études, décisions, prises de position et initiatives en Église. Mais je dois vous dire immédiatement que dans la deuxième partie de cette interpellation, vous pourrez être bien rassurés parce qu'on va s'arrêter ensemble à toute une série de moyens concrets, positifs, pour corriger, restaurer et sauver le tout. Alors, si vous êtes généralement mal à l'aise quand vous entendez quelqu'un critiquer l'Église, n'écoutez pas ces cassettes. Arrêtez-les immédiatement, puis passez à une symphonie de Beethoven ou bien à quelques cassettes de nos meilleurs chansonniers. Et si par ailleurs, vous voulez risquer d'apprendre comment on peut, avec une troisième voie VOIX d'expression, parler en Église, par amour vrai, au point de la souhaiter plus sainte et plus belle selon les vues du Seigneur, mais en étant également prêt d'appeler par leur nom les petites choses ou les grandes choses qui ne sont pas tout à fait catholiques, eh bien, installez-vous bien et écoutez jusqu'au bout. Enfin, quatrième et dernière remarque préliminaire. Je vois ici, dans cette salle, certaines personnes que je rencontre pour la première fois. J'aimerais déposer devant vous certaines lettres de créance. Pourquoi Charles Mathieu se donne-t-il la peine d'aborder ce sujet? D'abord, c'est parce que ça entre pleinement dans la mission de Pax Vobis, qui est une mission qui consiste à promouvoir plus d'unité entre les chrétiens qui poursuivent une œuvre dans un champ pastoral précis ou travaillent à promouvoir une cause en Église. Et alors, nous suscitons ce que nous appelons des échangeurs d'unité. Et cette interpellation veut justement aider tous les chrétiens et les chrétiennes qui veulent un renouveau encore plus en profondeur de l'Église institution à pouvoir se rallier autour d'une interpellation qu'ils pourront discuter, sur laquelle ils pourront échanger et mettre en commun leurs désirs, leurs expériences et surtout se sentir collectivement stimulés à poursuivre ce renouveau ensemble dans la paix, la joie, dans la vérité et la charité. L'autre lettre de créance que je vous présente en toute simplicité, c'est que je crois pouvoir dire publiquement que je la connais, cette Église, que je l'aime et que j'y crois. J'y ai travaillé pendant 28 années au niveau de l'archevêché de Montréal, des évêques du Québec, du Canada, sur le plan international. Et par conséquent, je l'ai vu de l'intérieur, dans tous ses réseaux opérationnels, dans tous ses modes fonctionnels, et dans tout l'ensemble de ses œuvres, institutions, communautés, organismes de tout genre. On dit que si l'amour peut rendre aveugle, le mariage lui redonne la vue. Eh bien, j'ai été bel et bien marié avec l'Église institution, pour le meilleur et pour le pire. Mon amour envers l'Église est libre, stable et fort. Car j'ai vu le Seigneur à l'œuvre, puissamment à l'œuvre dans notre Église, malgré nos faiblesses. Aujourd'hui, je vais souligner nos faiblesses, nos lacunes, mais j'ai vu la multitude de nos bons coups. J'ai perçu même le bien intentionné de nos erreurs. Mais j'ai surtout vu les possibilités d'amender, de perfectionner l'espérance grandir en moi au fur et à mesure où j'ai vu malgré tout certaines choses regrettables. On pourra peut-être, à la suite ou au cours de mon interpellation, remettre en cause telle ou telle expression de ma part, telle ou telle suggestion de ma part, telle ou telle interprétation ou évaluation. C'est normal. Je ne prétends pas avoir le monopole du génie, de l'analyse ou de la réforme. Mais on ne pourra jamais mettre en cause mon amour profond pour l'Église et mon désir ardent de son renouveau spirituel dans les plus courts délais. Alors voilà, mes chers amis, je vous donne maintenant le plan général de cet exposé. Il comprend deux parties. La première partie s'intitule « Griefs et difficultés ». La deuxième partie « Solutions et remèdes ». Il s'agit de deux parties à peu près égales. La première partie « Griefs et difficultés » va comprendre une section A et une section B. Section A, mes constatations personnelles en tant que Charles Mathieu, concernant les principales et décevantes lacunes de notre Église institution. Et une section B, les manigances et les pièges du malin pour contrecarrer la croissance et le rayonnement de notre Église institution. Dans la deuxième partie, solutions et remèdes, il y aura également deux sections, A et B également. Section A, la solution des solutions, le remède par excellence pour le renouveau de notre Église institution. Et dans la section B, nos cinq tâches primordiales, pratico-pratiques. Alors, comme je l'ai dit, deux parties à peu près égales, une partie première plus sombre, qui va nous porter à réfléchir et à réaliser les nombreux défis qui nous sollicitent. Mais également, une deuxième partie, beaucoup plus sereine, qui va nous porter à espérer et nous engager à résolument passer à l'action, assurer d'avance, moyennant la grâce du Seigneur, d'un succès certain et prochain. Première partie, section A. Mes constatations personnelles concernant les principales et décevantes lacunes de notre Église institution. Vous comprenez qu'il est normal au début de cette session, de cette rencontre avec vous, que je sois le premier à me compromettre et à mettre mes cartes sur la table. Vous aurez votre tour demain. Je distingue deux séries de commentaires. D'abord, mes commentaires quand j'étais moi-même en fonction dans l'Église institutionnelle. Et mon dernier poste était secrétaire général des évêques du Canada. Une deuxième partie, depuis que j'ai quitté ce poste, 1975, jusqu'à aujourd'hui, une série de constatations que j'ai pu faire grâce au recul du temps. Vous savez, quand on est en fonction et que ça turbine à 100 000 à l'heure, qu'on est vraiment bousculé par les défis et qu'on travaille sincèrement à fond, il y a une foule de choses qu'on n'a pas le temps de constater, et si on le constate, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Et depuis que j'ai quitté cette vie trépidante pour prendre le temps d'observer, d'écouter, de consulter, de prier, de réfléchir, eh bien, il y a beaucoup de choses que j'ai pu constater sur l'Église institution que je n'avais même pas. Dont je n'avais même pas la moindre idée quand j'étais en fonction. Et évidemment, est-il nécessaire de le dire, je ne prétends pas vous présenter un tableau exhaustif, là, un complet bilan de la situation, mais un certain nombre de points. Bon. Quand j'étais associé de près à l'Église-Institution, voici d'abord des points de mérite que je tiens à souligner. J'ai été à même de constater chez les personnes un zèle inouï. J'ai travaillé pour les évêques. Personne ne peut se faire une idée assez juste du dévouement, de l'engagement, de la générosité, de la consécration de ces personnes au service de l'Église. Et Dieu soit loué que nous ayons de tels chefs dans notre Église catholique ici au pays. Et leurs collaborateurs, c'est la même chose. J'ai été à même de voir les intentions formidables et les ressources innombrables. Je vous le dis sans emphase, mais avec la plus grande sincérité, je suis personnellement très fier d'appartenir à une telle Église. C'est sans mérite de ma part. Le Seigneur a permis que les circonstances de ma vie m'amènent à grandir dans cette plate-bande spirituelle qu'est l'Église catholique chez nous. On peut. Vous savez, comme on dit souvent, que quand on s'examine, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Eh bien, je dois dire que vraiment, on n'a pas à être malheureux de cette Église, d'une façon générale, quand on voit la qualité des personnes. Et dans les faits, j'ai constaté également que depuis Vatican II, il y a eu un remue-ménage sans précédent. Des réformes de structure, de mentalité, des nouvelles priorités, des initiatives des plus heureuses. Et je trouve malheureux que plusieurs de nos fidèles ont gardé et gardent encore des vieux portraits de famille de l'Église, des vieux films de l'Église d'il y a 20 ans, 25 ans. Et plusieurs aujourd'hui font des commentaires, portent des jugements sur l'Église qui peut-être étaient vrais il y a 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Mais je souhaite qu'ils s'en approchent, ne serait-ce que pour vérifier et reprendre un nouveau portrait de famille. Et c'est ces vieux portraits, ces vieux films de la vie de l'Église chez nous que certains propagent souvent auprès des jeunes à l'heure actuelle. On rencontre des jeunes qui n'ont pas connu cette période de l'Église et puis nous font des affirmations qui ne correspondent à rien quant à eux, ni de même pas au monde quand ça existait. Et puis quand il l'affirme aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or l'Église, Dieu merci, a énormément changé pour le mieux. Je dirais que c'est le jour et la nuit, à bien des points de vue. Malgré ça, mes chers amis, je ne serais pas sincère si je ne soulignais pas un certain nombre de points de démérite. D'abord, je trouve donc qu'il y a une disproportion énorme entre les efforts que nous déployons et les résultats que nous atteignons. C'est incroyable. Je souligne également qu'il y a des facteurs inutilement diluants, contrariants, accaparants sur le plan fonctionnel. J'avoue qu'on n'est peut-être pas entraîné à être des bons fonctionnels ou des bons opérationnels, mais il y a donc des systèmes, des façons de procéder, des façons de coordonner, d'administrer, de discuter, de se consulter, qui sont peut-être pas ce qu'ils devraient être. J'ai également constaté, et ça c'était le plus douloureux pour moi, que la charité chrétienne et la justice chrétien sont pas toujours édifiantes, même aux différents niveaux de notre Église institution. Il y a des mesquineries, des rivalités, des jugements, des critiques, des embêtements qui sont loin de nous faire honneur. Et puisque je suis de ce groupe du clergé, je dois dire que nous sommes souvent décevants pour les fidèles à ce point de vue-là. Et nous sommes souvent méchants les uns envers les autres. J'ai constaté également une tendance à la routine, à l'habitude. Vous savez, on peut devenir matériel même dans des activités spirituelles, comme quelqu'un peut, à l'inverse, devenir très spirituel dans des activités matérielles. Et il y a une tendance, dans certains milieux de notre Église institution, à la routine, à l'habitude, au fonctionnarisme avec un sens péjoratif. J'ai constaté également, avec regret, une gêne, pour ne pas dire une peur, des difficultés ou des refus à exprimer spontanément et à partager spontanément sa vie de foi. Si je voulais faire une interprétation favorable, je dirais que c'est parce qu'on a une vertu de discrétion qui est trop développée. Mais je pense que, trop souvent, hélas, on ne sent pas chez nos frères et nos sœurs, hommes et femmes d'Église, la profondeur de l'engagement avec le Seigneur. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, mais ils ne le laissent pas paraître. Avec quelques-uns, il faudrait des lunettes d'approche ou un stéthoscope, sinon un microscope, pour retracer le Seigneur à l'œuvre, dans leurs paroles, dans leurs comportements, dans leurs jugements, dans leurs réactions. Mais ce n'est pas que je veux effacer l'impression des commentaires que je viens de faire, mais fort heureusement, ces lacunes sont souvent plus des maladresses que des malhonnêtetés, de l'insécurité, du complexe d'infériorité, plutôt que de la suffisance ou du complexe de supériorité. C'est souvent dû à de l'improvisation, un manque d'assurance. C'est souvent dû à de l'ignorance. Je devrais dire, en blaguant, c'est plus attribuable à de la transpiration qu'à de l'inspiration. C'est peut-être grave et déplorable et conséquent quand on pense aux effets que ces comportements peuvent avoir. Mais entre nous soit dit, c'est peut-être moins inquiétant et plus explicable quand on pense aux causes qui les suscite.